Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 11, le syndrome du nid vide. Alors Béatrice, il y a quelques années, tu as écrit un livre qui s'appelle « Le jour où les enfants s'en vont » qui est maintenant sorti en poche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le syndrome du nid vide ?
Oui, le syndrome du nid vide, c'est une vague d'émotions qui vous submerge au moment du départ des enfants. C'est un peu comme le baby blues qui peut aller donc du simple coup de mou, je dirais, au vrai chagrin, voire à la dépression. Donc c'est donc une émotion qui peut être très forte, très dense ou plus légère. Mais en fait, le départ des enfants, et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre à ce moment-là, c'est que ça laisse personne indifférent. Et donc, quelles que soient les circonstances, etc., le contexte dans lequel les enfants partent, dont on va parler évidemment, c'est un moment, c'est un passage.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont comme, ils ou elles, hein, d'ailleurs, peut-être, qu'est-ce qu'ils ont comme sentiment, comme plainte somatique éventuelle, les patients ou les patientes qui viennent te parler de ça ?
Alors, ils ont justement une perte de repère, c'est-à-dire qu'ils ont été habitués, depuis que les enfants sont nés, ils sont habitués à leur tenir la main, les protéger, etc. Et là, c'est tout l'inverse, il va falloir les lâcher. D'abord, il y a une perte de contrôle qui peut être pour certains extrêmement angoissant, surtout qu'on est maintenant quand même dans une société avec le numérique, etc., où il y a un contrôle assez fort quand même des adolescents, notamment hein, avec le téléphone portable, etc. Et donc, il y a cette nécessité de passer à la logique de protection, de contrôle, à celle du lâcher-prise. Et donc, il y a effectivement tout un état d'esprit à faire évoluer. Et de façon assez pratique, il y a une perte de repère aussi dans le quotidien. C'est-à-dire, il n'y a plus les portes qui claquent, la musique dans la chambre, les repas à préparer, les emplois du temps à vérifier, etc. etc. Donc, il y a ce sentiment effectivement de vide. Et la question un peu angoissante, plus ou moins angoissante, ça va être qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps qui se libère ?
Alors, on pense que ça concerne surtout les femmes, hein, mais est-ce qu'il y a aussi des hommes qui peuvent vivre une période difficile au moment où les enfants quittent la maison ?
Alors, de toutes les façons, c'est clair que les femmes, moi j'ai rencontré beaucoup plus de femmes en consultation qui venaient me parler du départ de leurs enfants parce que c'était pour elles un moment franchement douloureux. Je pense qu'elles ont une charge mentale et que, de façon traditionnelle, alors les choses évoluent et peut-être qu'on rencontrera beaucoup plus d'hommes dans l'avenir, mais aujourd'hui, encore maintenant, c'est les femmes qui organisent plus le quotidien pratique des enfants et donc c'est peut-être elles qui ont ce sentiment comme ça de temps à meubler, et de temps qui s'est libéré. De toutes les façons, le départ des enfants, il va être vécu de façon plus ou moins intense en fonction de la personnalité, de l'histoire des parents, de comment eux-mêmes sont partis de chez leurs propres parents. Et donc, il y a quelques hommes, moi j'en ai rencontré, mais c'était toujours en lien avec une histoire personnelle de séparation qui avait été douloureuse. J'ai en tête, par exemple, un homme qui avait perdu son père très tôt et qui avait été mis en pension par sa mère pensant qu'il serait mieux éduqué entre guillemets qu'avec elle toute seule. Et au moment où sa propre fille à lui est partie à l'université, en plus elle partait à l'étranger, il a eu pas une vraie dépression, mais il a eu vraiment un sentiment d'angoisse assez fort. Et le départ de sa fille en fait réactivait cette angoisse de séparation que lui-même avait connue. Mmh. Donc effectivement, et surtout c'est intéressant de voir que les sentiments éprouvés sont très en lien avec l'histoire personnelle et les expériences de séparation plus ou moins douloureuses qu'on a pu connaître.
Et alors justement, est-ce qu'il y a également, en plus de ça, des périodes de la vie ou des circonstances particulières qui peuvent compliquer encore les choses ?
Oui, bien sûr. Je pense que, par exemple, quand on est une femme seule, qu'on a élevé seule plus ou moins ses enfants, c'est plus compliqué, hein, parce que la vie s'est plus concentrée sur cet enfant. Donc, évidemment, son départ va être d'autant plus douloureux et le sentiment de vide plus intense. Je pense aussi que parfois, ça coïncide avec la retraite, par exemple, ou en tous les cas, un changement de boulot, une espèce de perte de vitesse dans le travail, ou bien chez certaines femmes, ça coïncide aussi avec la ménopause. Donc en réalité, il faut bien le reconnaître que quand ça va souligner qu'on n'est plus très jeune, qu'on a fait quand même un pas vers la vieillesse, c'est pas toujours très très facile. Je pense aussi que l'enfant unique, c'est plus compliqué quand on n'a qu'un seul enfant, puisque l'attention sur lui a été quand même extrêmement soutenue. Ou bien le dernier enfant aussi. Le dernier enfant, parce que alors pour le coup, je pense que ça souligne aussi cette page qui se tourne et cette entrée dans une autre phase de la vie qui va être longue, hein, puisque heureusement on vit maintenant très longtemps, mais qu'il va falloir occuper autrement.
Et alors cette difficulté, cette peine dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose que les enfants ressentent et qui peut avoir des répercussions sur leur vie, et si oui, lesquelles ?
Alors évidemment, plus un parent va exprimer à son enfant son désarroi, sa peine, sa tristesse, plus ça va être compliqué parce que il va ressentir un sentiment de culpabilité très très désagréable. Et donc, soit il va lui en vouloir beaucoup, soit il va finalement retarder le moment de partir. Donc oui, évidemment, je pense que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de leur dire qu'on est heureux de les voir s'envoler, que finalement on leur fait confiance. C'est très très important de leur exprimer qu'on a confiance et qu'ils sont capables, évidemment, de se débrouiller sans nous. Donc ça, c'est un très, très grand cadeau. Et quand on n'arrive pas à le faire parce que c'est trop difficile, c'est trop douloureux, au lieu de leur faire peser toute cette peine, tout ce chagrin, toute cette détresse, là, pour le coup, je pense qu'il vaut mieux aller consulter. Mmh. En parler quelques fois pour que, voilà, au lieu de leur balancer sur le dos tout ce fardeau, que ça soit exprimé ailleurs.
D'accord, alors évidemment, tout le monde aimerait passer cette période en se réjouissant d'avoir bien accompagné ses enfants au point qu'ils soient prêts et heureux de quitter le nid. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce sentiment de vide ?
Moi déjà, je pense que le départ des enfants, ça doit se préparer en amont. Je pense qu'il faut assez vite se dire que les enfants sont pas faits ad vitam pour rester chez leurs parents et que donc il y a des petites préparations, les envoyer à droite et à gauche quand ils sont petits chez les grands-parents, chez un cousin, une cousine, en colonie, etc., ça va un petit peu montrer aux parents que finalement, leurs enfants sont aussi en sécurité ailleurs, qu'ils ne sont pas absolument indispensables tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense aussi qu'il y a un moment de la cohabitation entre grands adolescents, jeunes adultes et parents qui n'est pas si facile que ça. Hein. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on a des enfants, grands adolescents, jeunes adultes qui vivent à la maison, on se rend compte que finalement, c'est pas si réjouissant parce que on peut pas non plus leur imposer des règles comme on leur en a imposé quand ils avaient 10 ans. Mais en même temps, on est chez soi et on n'a pas envie que ça soit n'importe quoi. On a l'impression que on est simplement l'hôtel. Il faut aussi se rappeler ces petits moments de friction. Ces moments d'énervement où on se dit « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il serait grand temps qu'ils partent ». Et voilà, et se dire qu'au fond, justement, peut-être que ces énervements, ils sont là pour préparer et pour alerter. On n'est pas fait pour vivre ensemble indéfiniment.
Mmh. Oui, puis il y a des bons côtés également hein, que tu évoques largement dans ton livre. Tu peux nous les expliquer ?
Moi, je suis convaincue que c'est extrêmement réjouissant d'avoir des enfants adultes et que c'est une ouverture sur le monde formidable. Ils s'orientent vers des formations, vers des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Ils ont des goûts de musique, de cinéma, de littérature, etc., qu'on n'a pas forcément. Ils nous présentent des copains, des copines, des fiancés, des pas fiancés, etc., que parfois on aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est très, très agréable d'avoir ces communications avec des enfants adultes, avec qui on garde un lien affectif extrêmement fort, mais en même temps, avec le sentiment que oui, on leur a donné les outils pour être autonomes, qu'ils le sont, et que finalement, voilà, il y a un échange formidable sans sens de responsabilité qui pouvait être à un moment un peu écrasant et sans ces contraintes du quotidien casse-pieds.
Oui, puis en même temps, on retrouve également du temps pour soi.
Exactement, on retrouve du temps pour soi. Et ça, c'est important d'y penser parce que c'est ce qui va permettre aussi de meubler ce vide. Donc, c'est vrai que c'est un moment... D'abord, il ne faut pas s'isoler. Je pense que c'est bien de voir des amis, de parler de ce qu'on ressent parce qu'en général, on n'est pas les seuls à ressentir ça. Et alors, quand on est en couple aussi, c'est un moment un peu charnière parce que les enfants font quand même écran longtemps à la confrontation du couple seul. Et donc, plus les enfants ont été omniprésents dans le système familial, on fait un peu écran dans le couple, plus l'idée de se retrouver en tête-à-tête peut être un peu vertigineux pour certains. Donc, il va falloir se poser la question, en parlant, en en discutant, de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de tout ce temps qui reste. Est-ce qu'on a des projets? Est-ce que, voilà, on va avoir des activités communes ensemble? Est-ce que chacun va développer des intérêts différents? Ou bien, tristement, parfois, est-ce que c'est le moment, justement, de se séparer parce qu'on n'a plus trop de choses à se dire. On voit plus de couples qui se séparent un peu tardivement après le départ des enfants parce que voilà, ils ont l'impression que ils ont un peu fait leur boulot, que c'était pas le moment avant, mais que maintenant voilà, ils vont continuer différemment.
Et alors, une fois que les enfants sont partis à l'étranger ou travaillent ou sont partis habiter chez eux, comment est-ce qu'on aménage les liens ?
Alors, je pense que dans un premier temps, il faut que la séparation soit quand même une vraie séparation. C'est-à-dire qu'il faut résister à la tentation de maintenir un contrôle, d'appeler tout le temps, de faire toutes les démarches à leur place, de laver leur linge, etc., etc. Au fond, la balle, elle est un peu dans le camp des enfants. Parce que eux aussi, ils doivent s'habituer à vivre sans leurs parents et eux aussi, ils doivent prendre confiance en eux. Et donc, si on est toujours derrière leur dos, et c'est très, très facile maintenant avec les nouvelles technologies d'être en contact avec eux quasi permanent, ils vont se dire au fond qu'ils n'en sont pas très capables. Donc, ça peut créer une espèce d'insécurité comme ça. Donc, essayons plutôt au début de les laisser naviguer comme ils l'entendent. Et puis, on peut se fixer aussi quelques rendez-vous ponctuels, se dire on va se téléphoner, je sais pas, une fois par semaine, ou ils sont dans la même ville, dans la même commune, etc., ils peuvent aussi se rencontrer, bien sûr. Hein. En fait, il ne faut pas qu'il y ait trop d'exigences au départ.
Donc finalement, ce départ des enfants, c'est une nouvelle étape ?
Oui, c'est une nouvelle et grande étape et c'est vrai que ça peut être assez joyeux. Moi, j'ai en tête aussi, par exemple, une femme qui était désolée du départ de son dernier fils et puis finalement, une fois qu'il était parti, elle me disait, au fond, je suis assez contente parce que le dimanche soir, quand je pars en week-end, je ne suis pas obsédée par l'idée de rentrer tôt pour le voir. Donc, elle goûtait à cette espèce de liberté quand même. Hein. Et au fond, c'est très agréable. Je crois qu'il faut se réjouir et se dire qu'on a bien fait son boulot et que les enfants volent de leurs propres ailes et que finalement, nous aussi, d'une certaine façon, on va pouvoir prendre un autre envol.
Merci beaucoup, Béatrice. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.